Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le 78e anniversaire de l'indépendance du Liban, aujourd'hui une fête dans un contexte de très grave crise socio-économique. Nous écouterons l'ambassadeur du Liban en France, Rami Adouane. La Grande Mosquée de Paris et trois autres fédérations nationales ont installé hier un Conseil national des imams, une instance qui vise à donner un agrément aux imams. Notre invité sera le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Maître Shamseddine Hafiz. Le dernier moine de Tibérine est mort hier au monastère de Midelt au Maroc. Le père, Jean-Pierre Schumacher, était âgé de 97 ans. En Tunisie, le président Kais Saied a assuré lors d'un entretien avec le chef de la diplomatie américaine préparer la sortie de l'état d'exception. État d'exception en vigueur depuis le 25 juillet. Des manifestations anti-coup d'État hier au Soudan. Un adolescent a été tué d'une balle dans la tête à Khartoum. Un nouveau décès qui intervient alors que le premier ministre civil, Abdallah Hamdok, vient d'être réinstallé à son poste au terme d'un accord avec l'armée. Les violences conjugales en hausse de 10% en 2020 en France avec 159 400 victimes, une annonce du service statistique du ministère de l'Intérieur. C'est aujourd'hui le 78e anniversaire de l'indépendance du Liban. Une fête de l'indépendance sur fond de très graves crises socio-économiques marquées par de multiples pénuries et une inflation record. L'ambassadeur du Liban en France, Rami Adouane.
Aujourd'hui, au moment où le Liban traverse des crises plurielles qui se nourrissent les unes des autres, au moment où le Liban est ballotté par les turbulences régionales et internationales, l'heure n'est sans doute pas aux célébrations. Le moment est peut-être venu de donner à notre indépendance tout son sens et toute sa vigueur. Le moment est peut-être venu de donner à cette indépendance son sens en accordant aux citoyens libanais toute sa souveraineté. L'indépendance devient alors l'expression de la liberté et de la responsabilité de chacune et chacun. Elle s'affirme surtout comme une œuvre collective. Certes, l'indépendance s'acquiert de haute lutte en un jour, mais la préserver et la renforcer exige un engagement de tous les jours et de tous les instants. Vive le Liban.
L'ambassadeur du Liban en France, Rami Adouane. La Grande Mosquée de Paris et trois autres fédérations nationales ont installé hier un Conseil national des imams, une instance qui vise à donner un agrément aux imams. Elle dote, selon un communiqué des fédérations, le culte musulman français d'un espace d'élaboration, de réflexion et d'action concernant l'imamat et sa pratique en France. Elles évoquent le début d'un travail qu'elles souhaitent collégial, pluriel et normatif pour renforcer l'installation du culte musulman au sein de la République. Entretien avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Maître Shamseddine Hafiz.
C'est un élément historique. Nous avons, alhamdoulilah, créé ce Conseil national des imams qui a pour mission d'abord de réunir en son sein tous les imams, tous ceux qui veulent être membres du Conseil national des imams. Donc c'est un appel à tous les imams, les murshidettes, d'intégrer le Conseil national des imams qui aura donc pour objet d'abord d'agréer les imams. Son rôle principal est, il y a une procédure d'agrément qui permet donc à tout imam d'avoir un agrément, et cet agrément lui permettra donc de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de dispositions, notamment de formation continue, de suivi de sa carrière, parce que le CNI a l'ambition d'accompagner durant toute sa carrière l'imam, dans sa protection sociale, dans sa rémunération et dans toutes les questions qui concernent la vie professionnelle de l'imam. Donc ça, c'est l'élément fondamental. Cet accompagnement se concrétise par le principe de la formation de base d'abord et puis la formation continue qui est nécessaire pour le développement professionnel de l'imam. Voilà à peu près quelles sont les missions. Il y a une mission qui est essentielle aujourd'hui parce que l'imam dans la religion musulmane est considéré comme celui qui est au devant pour la prière, donc qui conduit la prière. Mais là aujourd'hui, nous voulons ici en France que l'imam ait un statut, qu'il puisse avoir la possibilité d'un plan de carrière. Donc nous avons imaginé trois grilles, donc avec trois niveaux d'imam, donc l'imam débutant, qui après son l'acquisition de son diplôme peut devenir imam. Il sera donc, il aura le titre d'imam qui lui permettra pendant les 5 années d'exercice de conduire les 5 prières quotidiennes. Par la suite, après ces 5 années, il devient imam prédicateur et à ce titre-là, il pourra conduire la prière collective du Jumu'ah et faire le prêche. Et enfin, l'imam conférencier qui est celui qui a, je dirais, toute la compétence pour orienter les autres imams en matière de réponse aux questionnements des fidèles, comment accompagner les fidèles dans leur spiritualité. L'imam conférencier devient, je dirais, la référence de l'islam en France.
Avec ces 3 autres fédérations, vous plaidez pour une reconnaissance de vos efforts en faveur de l'émergence d'un islam républicain porteur des valeurs de paix, de solidarité et d'ouverture. Cet islam républicain, comment cela doit se traduire?
D'abord, à montrer que les valeurs de l'islam n'ont rien d'incompatible avec les valeurs de la République. L'imam doit montrer à tout le monde que d'abord, le musulman est un citoyen à part entière, des devoirs, mais en même temps, il a des droits. Et si vous voulez, ce travail de valorisation des règles et des principes de la République qui sont en adéquation avec les valeurs de l'islam. Ça, c'est la première mission de l'imam. Et puis, en même temps, l'islam en France doit être aujourd'hui contextualisé. Il faut absolument que l'imam, à travers sa pratique religieuse, il doit montrer aux fidèles musulmans que sa religion est totalement, je dirais, en adéquation des valeurs de l'islam qui sont des grandes valeurs universelles. C'est ça qui est le deuxième élément pour montrer que les musulmans en France sont totalement intégrés dans la République et sont des citoyens.
Le Conseil français du culte musulman entend mettre en place un Conseil national des imams le 12 décembre prochain lors d'un congrès. Peut-il exister deux conseils des imams en France?
Écoutez, moi je trouve que ça serait dommage. J'ai fait un appel depuis toujours à l'Union des mosquées de France de rejoindre le Conseil national des imams. Je rappelle quand même que l'Union des mosquées de France a travaillé avec nous pendant quelques réunions en présence du bureau central des cultes, Monsieur le Président Mohamed Moussaoui, président de l'Union des mosquées de France, était présent. Et à un moment donné, il n'est plus venu. On a quand même continué à l'inviter. Et je pense que dans l'intérêt de la communauté musulmane de France, un Conseil national des imams doit prévaloir. Nous lui proposons qu'il rejoigne la grande famille des musulmans de France l'Union des mosquées de France a toute sa place. Nous avons des valeurs au niveau de la coordination. Nous lui avons dit que de toutes les manières, il n'y avait ni de petites fédérations ni de grandes fédérations. Le Conseil national des imams ne devait pas être un lieu de pouvoir et c'était la démarche que nous avons entreprise. C'est déplorable, mais après, chacun assume ses responsabilités. Je ne peux pas, moi, forcer la main à d'autres fédérations. Et puis, au-delà des fédérations, moi, je considère que tous les musulmans, tous ceux qui sont aujourd'hui cadres religieux, qui s'estiment être des cadres religieux, donc imams, aumôniers, doivent venir vers le Conseil national des imams, qui n'est la propriété de personne, qui est un instrument mis au service de la communauté musulmane et n'est pas au service, je dirais, d'une ambition quelconque. C'est ça le message que j'ai essayé et je me suis évertué à passer en permanence. Pourquoi faire des procès d'intention et pourquoi essayer de créer un autre CNI? Cela n'a jamais été la prérogative du Conseil français du culte musulman, même le président de la République. C'est pour cela que dans notre communiqué, nous avons parlé d'impulsion. Moi, je ne vous cache pas, et je vous le dis aujourd'hui solennellement, j'ai été plusieurs fois encouragé par M. Darmanin, j'ai été encouragé par l'Élysée sur la création du Conseil national des imams. Donc, considérer que nous avons fait main basse sur une organisation, comme je le dis, c'est la propriété de personne. Le ministre de l'Intérieur est venu, il a rencontré le nouveau conseil d'administration du CNI, il a félicité le nouveau président du Conseil national des imams. Donc voilà, continuer à essayer de diviser notre communauté, c'est quand même quelque chose qui ne doit pas être favorisé.
Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, maître Chemzeddine Hafiz. Le dernier moine de Tibirine est mort hier au monastère de Midelt au Maroc. Le père Jean-Pierre Schumacher était âgé de 97 ans. Il était le seul survivant du massacre de Tibirine en 1996. 7 moines du monastère de Tibirine avaient été enlevés. Leur tête décapitée avait été retrouvée sur une route 2 mois après leur enlèvement. En Tunisie, le président Kais Saied a assuré lors d'un entretien avec le chef de la diplomatie américaine préparer la sortie de l'état d'exception. Il est en vigueur depuis le 25 juillet. Après avoir limogé le Premier ministre et gelé les activités du Parlement, le chef de l'État promet un retour au dialogue national. Il a justifié ses décisions par un péril imminent lié au blocage politique et à la profonde crise socio-économique et sanitaire dans laquelle se trouvait la Tunisie en juillet dernier. Des manifestations anti-coup d'État hier au Soudan, un adolescent de 16 ans a été tué d'une balle dans la tête à Khartoum. Cette mort porte à 41 le nombre de manifestants tués depuis le putsch du 25 octobre. Un nouveau décès qui intervient alors que le premier ministre civil, Abdallah Hamdok, vient d'être réinstallé à son poste au terme d'un accord avec l'armée. Un nouveau candidat à la présidentielle prévu le 24 décembre prochain en Libye. Il s'agit du premier ministre libyen par intérim, Abdelhamid Dbeba. Cette candidature intervient après celle d'un fils de Muammar Kadhafi, Saif al-Islam, et du maréchal Khalifa Haftar. Les talibans demandent aux télévisions afghanes de ne plus diffuser des séries avec des femmes. Le ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice, c'est son nom, demande également que les femmes journalistes portent le voile islamique à l'écran. C'est la première fois que ce ministère tente de réguler la télévision afghane depuis la prise du pouvoir par les talibans à la mi-août. Le délai d'inscription des Libanais de l'étranger sur les listes électorales pour les législatives du printemps prochain a pris fin samedi dernier à minuit. Plus de 244 000 d'entre eux pourront donc voter lors du prochain scrutin. Nous retrouvons l'ambassadeur du Liban en France, Rami Adouane.
244 442 inscrits à travers le monde, un chiffre préliminaire, en attendant la confirmation de l'ensemble des dossiers qui ont été soumis à l'ensemble des ambassades et des consulats généraux libanais à travers le monde. De ce chiffre-là, 244 442, la France est le premier pays. Donc c'est là où la diaspora s'est inscrite le plus massivement en nombre parmi l'ensemble des pays de la planète. Nous avons en France plusieurs dizaines de milliers d'inscrits. Les chiffres définitifs seront entre vos mains dans les jours qui viennent, en attendant la finition, le dernier décompte et la dernière vérification des dossiers qui nous sont arrivés au dernier moment. Des dossiers qui ont été le reflet, ce nombre-là, ce volume-là de demandes d'inscription, qui ont été le reflet d'abord de l'attachement des Libanaises et des Libanais à leur pays. C'est la deuxième expérience électorale des Libanais résidant à l'étranger dans un processus de vote législatif au Liban. Et les chiffres indiquent que les Libanais se sont trois, voire 4 fois plus mobilisés dans certains endroits par rapport à la première expérience. C'est donc là la confirmation d'un attachement, un attachement qui n'a jamais fait de doute au sein de la communauté et aux yeux de la communauté internationale. Mais c'est aussi la volonté, ce nombre massif d'inscrits, c'est aussi la volonté d'une expression libre, une expression libre qui est caractéristique des Libanaises et des Libanais, une expression libre qui a aujourd'hui tout son sens, à un moment où le Liban est ballotté entre espoir et désespoir. Enfin, cette mobilisation massive, j'insiste, est le témoignage d'un engagement des Libanais. Un engagement des Libanais qui reprennent confiance en dépit des temps difficiles dans les institutions. Un engagement des Libanais, une forme de réaction positive à la mobilisation de la France, de toute la France, des Françaises, des Français, des autorités et du président Macron aux côtés du Liban. Un engagement des Libanais qui répond aussi à une dynamique de l'ambassade ici à Paris et du consulat général à Marseille, et je souhaite à cette occasion saluer les efforts de l'ensemble du personnel diplomatique et administratif de l'ambassade ici à Paris et du consulat général à Marseille, qui travaillent sans relâche, il faut bien le dire, depuis 15 jours, sans interruption, samedi, dimanche compris, 11 novembre compris, et aujourd'hui 22 novembre, jour d'indépendance, jour férié au Liban, nos services travaillent d'arrache-pied pour répondre aux plus de 30 milliers de courriels que nous avons reçus et aux dizaines de milliers de téléphones et de messages téléphoniques que nous continuons de recevoir. Et enfin, l'engagement des Libanais est aussi un engagement que nous allons sans doute voir, comme nous l'avons vu, comme nous en avons été témoins au cours de ces derniers mois, de ces dernières années. Nous souhaitons voir cet engagement dans la formulation non plus d'idées lors de débats, mais dans la formulation de programmes et surtout dans la concrétisation de projets, des projets qui viendront couronner cette fraternité qui orne la relation entre le Liban et la France. Il faut à cette occasion aussi dire que la mobilisation massive des Libanais à l'occasion des élections libanaises, ici en France, des Libanais résidents en France, est l'écho à la mobilisation régulièrement massive des Françaises et des Français résidant au Liban à l'occasion des élections ici en France. C'est donc une fraternité citoyenne à laquelle nous avons commencé à assister lors de cette première phase, la phase d'inscription aux élections. Nous invitons l'ensemble de nos concitoyens résidant en France qui se sont inscrits à suivre les informations que l'ambassade ici à Paris, le consulat général à Marseille, ne manqueront pas de leur fournir tout au long des semaines et des mois qui viennent, afin de faire en sorte que le processus électoral se déroule de la façon la plus fluide, la plus transparente et la plus démocratique possible. Il y va, en ces temps cruciaux, de l'avenir de tout un pays, de toute une nation et de notre État. Vive le Liban en ce 22 novembre, une nouvelle fois sur votre antenne.
L'ambassadeur du Liban en France, Rami Adouane. Les violences conjugales en hausse de 10% en 2020 en France, avec 159 400 victimes, une annonce du ministère de l'Intérieur. Environ 87% des victimes sont des femmes. Ces chiffres du ministère ne comptabilisent pas les féminicides et les homicides. En 2020, 102 femmes avaient été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Vous êtes bien sur Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash en langue française. 17h30 pour votre journal. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Laurent Hénard, président du Parti Radical, ancien ministre, ancien maire de Nancy. Une émission préparée et présentée par Loïc Barrière. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient. Il est 12h18.